J'ai une autre bonne question pour vous. Comment pouvons-nous entrer dans la présence de Dieu? La parole de Dieu va nous donner la réponse aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Aujourd'hui à l'émission, on va parler de la transfiguration. Voici quelques questions que vous vous posez probablement vous-même à ce sujet. Premièrement, que signifie le mot « transfiguration » ? Et qu'est-ce que la transfiguration prouve ? Qu'est-ce qu'elle démontre ? Est-ce que Jésus-Christ est le seul à avoir reçu toute l'affection de Dieu le Père ? Comment pouvons-nous aller en présence de Dieu ? Quelle est la meilleure devise pour un croyant ? Est-ce que Christ est réellement notre seul espoir ? Pourquoi l'Église de Jésus-Christ a-t-elle si peu de puissance aujourd'hui? Demeurez à l'écoute. Le pasteur Régent Joly a trouvé les réponses à nos questions. Il est sur le point de nous les donner. Mais premièrement, demandons à Dieu qu'il nous éclaire, qu'il nous aide à bien comprendre ce merveilleux enseignement de sa parole. Prions. Oui, Seigneur, aide-nous à comprendre. Ouvre nos cœurs, notre intelligence, qu'on puisse bien saisir ce que tu veux nous enseigner aujourd'hui. On a besoin que tu nous enseignes. On veut mieux te connaître, Seigneur. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. Dans ce 17e chapitre de l'Évangile selon Matthieu, nous avons le récit de la transfiguration, le récit d'un démon chassé d'un enfant, et Jésus qui paie une taxe de façon miraculeuse. À la dernière émission, nous avons dit que le dernier verset du chapitre 16 se rattachait à la transfiguration. Nous allons reprendre avec ce dernier verset. Lisons. L'Évangile selon Matthieu, chapitre 16, verset 28. « Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. » Ceci fut accompli lors de la transfiguration de Jésus. La transfiguration est une image du Fils de l'homme venant établir son royaume. Quelqu'un peut se demander comment je puis en être si certain. Le Seigneur Jésus fait référence à la transfiguration dans ce verset. L'apôtre Pierre fut l'un des témoins de la transfiguration et il parle de l'événement dans sa deuxième épître. Lisons. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1, versets 16 à 18. Ce n'est pas, en effet, en suivant des fables habilement conçues, que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux, car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Comment est-ce que les paroles prononcées par Jésus ont eu leur accomplissement pour les apôtres? Lorsque Jésus-Christ a révélé sa gloire sur le mont de la transfiguration en présence de trois disciples, la transfiguration était un aperçu du royaume, et Simon-Pierre l'a confirmé. Les autres évangiles, sauf l'évangile selon Jean, racontent aussi le récit de la transfiguration. Ceci m'amène à faire un énoncé qui peut vous surprendre. La transfiguration n'est pas la preuve ou la démonstration de la divinité de Jésus-Christ. Elle démontre plutôt son humanité. L'Évangile selon Jean, qui met l'accent sur la divinité de Christ, omet cet événement, même si tous les autres évangiles en parlent. La transfiguration ne prouve pas seulement l'humanité de Christ, mais elle démontre l'espoir de l'humanité. L'homme que nous voyons transfiguré dans cette scène est le type de personne que vous, mes amis, serez un jour, si vous êtes un enfant de Dieu. Nous lisons, dans la première épître de Jean, chapitre 3, verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que, lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous savons qu'un jour nous serons semblables à Christ. C'est notre espoir glorieux. Le Seigneur Jésus-Christ fut glorifié avant sa mort et sa résurrection. Et nous, c'est cette scène qui est décrite ici. Si vous consultez le récit de l'Évangile selon Luc, vous verrez qu'il donne des renseignements supplémentaires que nous n'avons pas dans les deux autres évangiles. Luc met l'accent sur l'humanité de Jésus-Christ. Débutons notre lecture, Matthieu chapitre 17, versets 1 et 2. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Son visage resplendit comme le soleil. La lumière provenait de son intérieur. Ce n'était pas une réflexion ou un reflet du soleil. Je pense qu'il est possible qu'Adam et Ève fussent revêtus de ce type de lumière avant le premier péché commis dans le jardin d'Éden. C'est le corps humain de Christ qui fut transfiguré, et cette transfiguration nous montre son humanité parfaite. Le mot « transfiguré » est intéressant. C'est le mot « métamorphose » qui signifie un changement de forme ou de structure. La chenille ou doux velours deviendra un beau papillon après un processus de métamorphose. Ce corps que je possède avec ses infirmités et ses maladies sera un jour transfiguré, et même les vivants, au moment du retour de Christ, seront transformés, transfigurés. C'est l'espoir glorieux des croyants. Verset 3. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Moïse est le représentant de la loi, et Élie le représentant du mouvement prophétique. Moïse était décédé, et Élie fut amené dans un chariot de feu. Luc, l'évangéliste Luc, nous dit que les deux hommes ont discuté du départ de Jésus pour Jérusalem avec celui-ci. Lisons l'Évangile selon Luc, chapitre 9, versets 30 et 31. Et voici, deux hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie, qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. La loi et les prophètes ont annoncé la mort du Seigneur Jésus-Christ. Revenons à notre texte, Matthieu chapitre 17, verset 4. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Simon-Pierre ne ratait jamais l'occasion de prendre la parole. Toutes les occasions étaient propices à ses yeux. Mais, cette fois-ci, il a de nouveau raté l'occasion de se taire. Il a fait cela souvent jusqu'au jour de la Pentecôte. Dieu lui-même l'a repris, comme nous le verrons, car il plaçait le Seigneur Jésus sur un pied d'égalité avec Moïse et Élie. L'évangéliste Luc a expliqué l'audace de Pierre en affirmant, « Il ne savait ce qu'il disait. » L'Évangile selon Luc, chapitre 9, verset 33. Beaucoup de gens ouvrent la bouche sans savoir ce qu'ils disent. Pierre fut repris, car il aurait dû garder silence. Verset 5. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » C'est Dieu le Père qui parle de Jésus, son Fils. Jésus est l'autorité sans appel en matière de révélation. Ce que Moïse, Élie et les prophètes avaient à dire était merveilleux. L'auteur de l'Épître aux Hébreux a dit, et je cite, Hébreux chapitre 1, versets 1 et 2, « après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Le Fils est celui qui est venu sur terre pour nous donner la révélation finale de Dieu. Notez et énoncez du Père, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Avez-vous déjà entendu une voix du ciel vous annonçant que Dieu a mis en vous toute son affection? Moi non plus. Je n'ai jamais entendu une telle voix. Dieu a dit cela de Jésus-Christ seulement. Jésus-Christ est le seul qui a reçu toute l'affection de Dieu. Vous et moi ne pourrons jamais aller en présence de Dieu sans être en Christ par la foi. Lorsque nous recevons Christ comme Sauveur, nous devenons membres du corps de Christ. Dieu a mis toute son affection en Christ, et c'est en lui que Dieu nous accepte. Versets 6 à 8. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Chers amis, aimeriez-vous avoir une excellente devise pour votre vie? Je vous recommande ces deux mots. Jésus seul. C'est lui l'autorité finale. Notez ces deux mots dans votre Bible. Jésus seul. C'est une bonne devise pour chacun d'entre nous. Verset 9. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Pourquoi attendre la résurrection avant de parler de cet événement? Pourquoi est-ce qu'il devait être compté à ce moment-là? Parce qu'il fait partie du récit de l'Évangile. Il révèle qui est Jésus. Il est l'agneau de Dieu sans défaut et sans tache. Il fut mis à l'épreuve pendant 3 ans, et il est en route pour la croix, afin d'ôter les péchés du monde. Dieu exige un sacrifice sans défaut et sans tache. Donc, le Seigneur Jésus était le seul qui pouvait mourir à la place des pécheurs. Il était le seul qui n'avait pas à mourir pour ses propres péchés. Il fut transfiguré dans sa parfaite humanité. Il est son espoir. L'espoir de l'humanité n'est pas dans la science ou l'éducation. Les deux nous déçoivent énormément de nos jours. Ils ont créé des Frankenstein, et nous ne savons que faire. Par exemple, ils ont inventé l'automobile qui encombre les routes et pollue l'atmosphère. La science ne résout pas le problème. Ils ont développé l'électronique et ils s'en servent pour guider des missiles. Mes amis, l'espoir de l'humanité se trouve dans une personne nommée Jésus-Christ. Assurez-vous de faire sa connaissance, car il est votre seul espoir. Verset 10. Les disciples lui posèrent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'il y doit venir premièrement? Maintenant, prêtez attention à cet énoncé remarquable. Verset 11. Il répondit. Il est vrai qu'il y doit venir et rétablir toutes choses. Jésus confirme la prophétie que nous retrouvons dans le prophète Malachie. Verset 12. Mais je vous dis qu'il y est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu, et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Plusieurs se demandent si Jean-Baptiste était vraiment le prophète Élie. Nous avons déjà touché ce sujet au chapitre 11. Jésus anticipe les arguments de ceux qui affirment que Jésus a dû mourir sur la croix parce que Jean-Baptiste n'était pas Élie, et qu'Élie devait venir avant que Christ revienne établir son royaume. Jésus-Christ affirme que s'il l'avait accepté comme roi, Jean-Baptiste serait devenu Élie. Ne me demandez pas comment cela se serait fait. Je vous dis simplement ce que les Écritures enseignent. Verset 13. les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Cette scène nous démontre un état du royaume des cieux tel qu'il est à notre époque. Quelle est la place de l'Église en cette situation? Suivez-nous au pied de la montagne, où les disciples qui n'ont pas suivi Jésus sur la montagne n'ont pas réussi à chasser un démon. Versets 14 à 16. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, et ils n'ont pas pu le guérir. » C'est probablement le pire cas de possession démoniaque qui fut présenté à Jésus. La situation était triste, car les disciples furent impuissants à chasser le démon. C'est une image de l'Église d'aujourd'hui, qui n'a plus de puissance dans un monde sous l'emprise du diable et qui est perdu. Pourquoi l'Église a-t-elle si peu de puissance? Est-ce parce qu'elle ignore la psychologie? Est-ce qu'elle n'emploie pas les bonnes méthodes? Est-ce qu'elle n'a pas assez d'argent? L'Église a toutes ces choses. Malheureusement, ce n'est pas ce qu'elle a réellement besoin. L'homme a dû s'adresser à Jésus. « Je l'ai emmené à tes disciples, et ils n'ont pas pu le guérir. » Verset 17. Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Race incrédule et perverse, voilà ce que Christ dirait à son Église aujourd'hui, et il nous le dirait probablement individuellement aussi. Emmenez-le-moi ici. C'est à Jésus, celui par qui les meurtrissures duquel nous sommes guéris, qu'il faut présenter notre cas. Verset 18. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Jésus a adressé des reproches à ses disciples, maintenant il parle sévèrement au démon. C'est probablement le pire cas de possession démoniaque qu'a rencontré Jésus. Versets 19 et 20. Alors, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? »« C'est à cause de votre incrédulité, » leur dit Jésus. « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à cette montagne, « Transporte-toi d'ici là, » et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. » Rien ne vous serait impossible. Rien, selon la volonté de Dieu, n'est impossible. C'était la volonté de Dieu que le fils de cet homme soit délivré du démon. Pourquoi les disciples ont-ils échoué? Parce qu'ils n'avaient pas la foi. Verset 21. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Ce verset ne se trouve pas dans les manuscrits les plus reconnus. Maintenant le Seigneur explique à ses disciples qu'il mourrait et qu'il ressusciterait. C'est la troisième fois qu'il le fait. Versets 22 et 23. Pendant qu'ils parcouraient la Galilée, Jésus leur dit, « Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir, et le troisième jour, il ressuscitera. » Ils furent profondément attristés. C'est la troisième fois que Jésus aborde ce sujet. Il l'a fait une première fois à Philippe de Césarée. Maintenant, il est en Galilée, en route vers Jérusalem, et il en reparle. Les disciples ne peuvent que s'attrister. Verset 24. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les deux drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent, « Votre maître, ne paie-t-il pas les deux drachmes? » Les deux drachmes étaient une taxe annuelle pour le temple. Verset 25. « Oui, dit-il. » Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint et dit, « Que t'en semble, Simon? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tributs ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? » Jésus le prévint signifie que Jésus alla au-devant de Pierre avant qu'il transmette le message des collecteurs d'impôts. verset 26. Il lui dit, « Des étrangers. » Et Jésus lui répondit, « Les fils en sont donc exempts. » Jésus enseigne à Pierre qu'en tant que fils de Dieu, il n'a pas à payer la taxe, tout comme les membres d'une famille royale sont exempts de taxes. Verset 27. « Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un statère. Prends-le et donne-le-leur pour moi et pour toi. » C'est une façon originale de trouver l'argent pour payer ses taxes. Maintenant, le Seigneur Jésus démontre qu'il a récupéré tout ce qu'Adam avait perdu. Les animaux obéissaient à Adam avant la chute. Le poisson aussi bien que Pierre obéit à Jésus. Rappelons ici l'ordre établi par Dieu, le Créateur, pour sa création. Citons Genèse, chapitre 1, verset 26. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » À la transfiguration, nous avons vu l'homme restauré à son état original. Dans cet épisode des deux drachmes, nous voyons l'homme restauré à sa performance originale. Chers amis, tout être humain a besoin d'une restauration, de vivre une expérience par la puissance de Dieu, afin de pouvoir retrouver le pourquoi et le but ultime de la création. C'est ce que nous lisons dans la parole de Dieu, entre autres dans l'épître de Paul aux Romains chapitre 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Verset 18. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. De même, par un seul acte de justice, la justification, qui donne la vie, s'étend à tous les hommes. Et le verset 19 rajoute, « Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. » Voilà pourquoi que chaque être humain doit vivre une expérience, par la puissance de Dieu, d'être recréé, renouvelé dans la personne de Christ. Je rajoute un autre texte, cette fois dans 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 47 à 50. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voilà, chers amis, pourquoi nous devons tous renaître par la foi en la personne de Christ. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission, en lisant et méditant l'Évangile selon Matthieu, chapitre 18.
Merci, Régent. Il me semble que j'aurais aimé ça être là à la place de Pierre, Jacques, Jean, lors de la transfiguration. Imagine, ils ont vu le visage de Jésus resplendir comme le soleil. J'ai tellement hâte de voir ce visage resplendissant, le visage de mon bien-aimé, celui qui a donné sa vie pour moi sur la croix. Je suis bien contente de savoir que mon corps sera aussi transfiguré un jour au retour de Christ. Je vais voir Jésus tel qu'il est à ce moment-là. Puis je vais être semblable à lui. Wow! Régent a mentionné aujourd'hui que pour aller en présence de Dieu, le seul moyen, c'est de recevoir Jésus-Christ comme sauveur, puisque c'est alors qu'on devient membre de son corps. Dieu a mis toute son affection en Jésus, et c'est en Jésus qu'il m'a accepté. Oh, merci Seigneur. Avez-vous entendu la belle devise que Régent a mentionnée? Jésus seul. Eh bien, moi, je fais partie d'une équipe qui s'appelle Aujourd'hui l'Espoir. Puis l'équipe, c'est l'équipe justement qui vous présente Radio Espoir, puis l'émission à travers la Bible. Et notre devise, nous, c'est Aujourd'hui, l'Espoir, c'est Jésus seul. Et ça fait longtemps que Aujourd'hui l'Espoir existe, depuis 1996. Et oui, Christ est notre seul espoir. Le Seigneur Jésus est cet agneau sans tache que Dieu a envoyé pour ôter le péché du monde. Il est le seul sacrifice sans défaut qui pouvait être accepté par Dieu le Père. Jésus est le seul qui soit venu sur la terre sans péché. C'est lui qui est mon espoir. As-tu essayé de mettre ta confiance dans la science, dans l'éducation, dans la technologie, dans la philosophie, ou même dans la religion? Moi, je l'ai fait dans le passé. C'était comme mettre un bandage sur une blessure ou prendre un calmant pour pas sentir la douleur d'une blessure. Mais si je peux m'exprimer ainsi, ça guérissait pas le bobo. Le bobo, là, c'est le péché. Et Jésus est venu pour ôter le péché. Crois-tu en Jésus? Il est mon seul espoir. J'espère pour toi qu'il soit le tien. En ce moment même, il frappe à la porte de ton cœur. Jésus est vivant. Il est au ciel. Il est assis à la droite de son Père et a envoyé son Saint-Esprit qui habite dans le cœur de tous les croyants. Il habite donc dans mon cœur. Puis il te dit, repens-toi et crois à la bonne nouvelle. Veux-tu voir Jésus dans toute sa splendeur? Veux-tu l'admirer dans son ciel pour l'éternité? Tu peux être certain à partir d'aujourd'hui que ça va arriver si tu mets ta confiance en Jésus seul pour être sauvé, pour être pardonné de tes péchés, pour devenir un enfant de Dieu, un enfant de royaume, un enfant de roi qui va passer l'éternité avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Repens-toi. Et demande à Jésus de te sauver aujourd'hui même, il va le faire. Dis-lui, Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur coupable, et je viens à toi, et je te demande de me donner ce cadeau de la vie éternelle, et c'est certain qu'il va le faire.
Cher peuple du Québec, je profite de l'occasion pour vous inviter à participer au Camp de l'Espoir du 15 au 19 juillet 2003 qui se déroulera à Grand Sault, Nouveau-Brunswick. Nous vous offrons une nouvelle vague d'aventure dans le Seigneur. En plus de faire des sondages mercredi et jeudi en visitant les gens de l'endroit, vendredi le 18 juillet à la polyvalente Thomas Albert, vous assisterez à un spectacle de marionnettes en fin d'après-midi. Et plus tard, en soirée, à une présentation de musique gospel, animée par le groupe Aujourd'hui l'Espoir. À ce dernier, un groupe de la Nouvelle-Écosse va se produire sur scène et une artiste chrétienne locale, Brenda Genot, gagnante d'un Christian Country Music Award au Tennessee, va nous faire connaître quelques-unes de ses chansons. Une belle soirée en perspective, je vous le dis. Et samedi matin, donc le 19 juillet, dès 9h, vous êtes invités à participer à notre merveilleux déjeuner d'espoir, toujours à la cafétéria de la polyvalente Thomas Albert de Grand Sault. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par Dieu, celui de la chanteuse Caro. C'est donc un rendez-vous au Nouveau-Brunswick du 15 au 19 juillet 2003. Au plaisir de vous y voir.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.